Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC, votre émission en direct jusqu'à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Cyril Linet, Denis Charvet. C'est l'événement ce matin dans les grandes gueules du sport. Antoine Camboiré sera notre invité exceptionnel dans quelques instants. Julien Alaphilippe n'a pas envie d'aller sur le Tour de France. Interview exclusive RMC Sport hier, ce sera la punchline des GG à 10h30. Et puis 11h, un débat sur les capitaines de nos équipes de France, Dupont Mbappé dans l'actualité cette semaine. Est-ce une erreur de donner le brassard à nos superstars? Les GG ne sont pas d'accord. Tout de suite, c'est l'heure d'accueillir notre invité.
Je suis un grand garçon, je sais ce que je fais.
Excusez-moi du terme, nous, nous sommes des nains dans cette compétition.
La fébrilité, la fragilité qu'on a. Des fois, vous avez des rêves et puis ça ne se réalise pas, donc il vaut mieux pas en avoir.
On a le sentiment que dès qu'on fait la moindre erreur, ben, on la paye cash. Et c'est le cas d'ailleurs.
J'ai jamais rêvé d'entraîner Nantes. Hein. On m'a donné l'opportunité de venir. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Je ne vais pas donc rester alors que je ne suis pas capable de faire mon boulot.
Il y a 10 jours, l'annonce a surpris tout le monde. Antoine Camboiré est redevenu l'entraîneur de Nantes 10 mois après avoir été démis de ses fonctions. Il a dit oui, donc de nouveau, à Valdemarquita pour une mission sauvetage. Le FC Nantes est actuellement 16e de Ligue 1. Son premier match, c'est demain à 15h à Nice, avant de s'asseoir de nouveau sur le banc. Antoine Camboiré est ce matin face au GG. Bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut Antoine.
Salut Antoine.
Salut les potos.
Quel plaisir.
Ça fait longtemps
de t'avoir quelques minutes avec nous. Antoine, tu connais tout le monde autour de la table. Denis Charvet, Cyril Linet, Christophe Cessieux, le collègue Pascal Duprat. Ils ont des questions à te poser, Antoine. La première, elle est pour moi. Déjà, comment tu te sens? Comment tu vas à l'heure de reprendre le fil de ton histoire avec le FC Nantes? Est-ce que tu es stressé, motivé, envieux, anxieux, tout ça à la fois?
Ben déjà, après 10 mois de repos, je suis serein, je me sens bien, et puis je suis d'attaque. Quoi. Alors, à part juste la gorge, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris un coup de froid il y a 2 jours, parce qu'ici à Nantes, on a eu des grelons sur la tronche. Là. Donc voilà, mais sinon, je suis prêt, voilà, je suis d'attaque, et puis surtout motivé, parce que c'est un challenge difficile, il ne faut pas se mentir, qui nous attend. Très compliqué. Il faut croire que j'aime ça, moi. Oui, mais... Après, donc, on verra à la fin. Donc, si on est capable, donc, de réussir ce pari, je serai un homme heureux, bien sûr, un entraîneur et un homme heureux.
Denis Charvet pour Antoine Camboiré.
Antoine, ce qui est fou, c'est quand je te vois avec un regard extérieur, tu reviens avec la même motivation, la même énergie. C'est quand même incroyable ce que tu transportes et ce que tu déplaces. Moi, je suis admiratif, mais où tu vas chercher tout ça? Parce que c'est pas évident de revenir chaque fois dans un club que t'as connu et refaire, enfin, rejouer les pompiers de service. Ça, j'aime pas trop l'expression, mais c'est un peu le cas.
Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai pas d'état d'âme, pardon. Hein. J'ai construit ma carrière comme ça. Je suis arrivé ici, d'ailleurs, à Nantes à 19 ans. J'ai vite compris comment il fallait fonctionner. Et bien sûr que je me suis endurci. Alors, bien sûr que je suis quelqu'un de différent quand je suis en dehors, donc, du terrain, à la maison, avec mes amis. Mais ici, on vient avec un esprit de compétiteur. Et puis, surtout, on fait front, quoi. Et nos soucis, et surtout, on arrive surtout avec l'idée de ne jamais se plaindre. On est des privilégiés, on a cette chance de faire un métier fantastique. Pascal, il est là pour, certainement, Allez, pour aller dans mon sens. C'est-à-dire que, voilà, quand on n'est pas dans le boulot, on est malheureux comme tout, on tourne en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Et notre adrénaline, c'est de venir sur le terrain et on doit être heureux. Et tous les jours, je mesure la chance que j'ai. Et c'est pour ça que quand j'ai un défi à relever, ben je croque à plein dents et puis j'ai qu'une envie. De toute façon, c'est d'aller chercher les objectifs que me fixent les dirigeants et pas tout seul parce que j'ai un staff avec moi. Mais voilà, je sais qu'en venant de Nouvelle-Calédonie, tout gamin, je n'ai jamais rêvé faire cette carrière de joueur. Et puis aujourd'hui, me retrouver entraîneur donc professionnel et aussi surtout entraîner le FC Nantes, tu peux que te dire merci à la vie, quoi. Merci au bon Dieu, merci à tes grands-parents qui t'ont soutenu toujours, à tes parents. Donc voilà, c'est vraiment un bonus, quoi, un plus pour moi.
Donc tu prends ça avec philosophie et évidemment, tu es très motivé par ce challenge. Avant, tu as interpellé Pascal. Pascal aura une question pour toi dans quelques instants. Cyril Linet.
Antoine, bonjour. Je vais être, c'est ce que tu dis est très touchant et personne ne doute évidemment de l'engagement que tu vas mettre dans cette mission. Mais j'ai une question très concrète et très prosaïque. Tu es parti. Moi, j'ai fait un peu de management dans ma vie. Je n'ai jamais recruté quelqu'un dont je m'étais séparé. Et je n'ai jamais retravaillé avec quelqu'un avec qui ça s'était mal passé. Tu as retravaillé sous les ordres de Franquita, mais avec Valdemar qui sera pas loin. Ma question, c'est, et je te demande une réponse un peu précise. Est-ce que toi, tu as fait un pas en avant vis-à-vis de lui et lequel? Et est-ce que lui a fait un pas en avant vis-à-vis de toi et lequel? En gros, est-ce que vous vous êtes accordé sur un mode de fonctionnement sensiblement différent de celui d'il y a un an?
Mais c'est clair que tout le monde connaît la situation donc, que j'avais vécue ici. Donc, bien sûr que moi, le premier, je ne vous cache pas que c'est un retour inattendu. Jamais je pense revenir à Nantes. Et si je reviens à Nantes, c'est peut-être avec d'autres patrons du club, encore moins avec Valdemar Quitta. Mais ce qui est bien, c'est que samedi, après le match de ici à domicile face à Strasbourg, et la défaite, je reçois pour la première fois un coup de fil, je vous dis tout, de Franck Quitta. Et c'est lui qui m'appelle pour me dire « Antoine, est-ce qu'on peut se voir ?» Comme j'avais quitté donc ici donc le Nantes était tout Franck dans des bonnes conditions donc j'ai dit pas de souci donc j'ai dit on se voit et puis finalement on devait se voir tard le soir et au dernier moment il m'a dit ben finalement c'est pas moi qui t'invite c'est le président voilà et j'ai dit t'es sûr il m'a dit oui c'est sûr donc là donc quand je suis arrivé au rendez-vous il y avait bien sûr monsieur le président monsieur Quitta et Franck, et là on s'est retrouvés à trois, et donc bien sûr que lui il a fait un pas, et puis moi j'ai dit, de toute façon, il a dit, hein, les premiers mots c'est Antoine, vous avez un fort caractère, on s'entend pas, voilà, et c'est pas ça le plus important, et moi j'ai dit oui, c'est pas ça le plus important, le plus important c'est le FC Nantes, et on a tous les deux envie donc de sauver le club, et c'est ce qu'on va faire.
Voilà. Donc le pas c'est d'acter le fait que vous n'avez pas des caractères super compatibles, et qu'il faut mettre ça de côté pour le challenge, c'est ça, l'un comme l'autre.
Complètement, voilà. Puis après, il y a aussi donc, alors on s'entend pas, mais moi j'ai toujours, avec mon éducation, toujours respecté l'institution et encore plus bon, le président. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui me paye. Donc quand il vient, ben, la porte elle est ouverte, je dis bonjour, je suis respectueux, je sais que c'est lui le patron. Mais c'est vrai que dans mon travail au quotidien, à travers donc, les compos d'équipe, les entraînements, tout ça et tout, les choix que je fais, ça ne regarde que moi parce que demain, quand il y aura des mauvais résultats, je me ferai couper la tête avec mes décisions, mes choix et mes conneries surtout. Hein.
Antoine, vous allez quand même pas aller faire des parcours de golf avec Valdemar quand même.
Non, c'est avec Denis. Mais je me méfie parce que j'ai entendu que Denis, des fois, il triche, alors je suis un peu embêté.
Pardon ? Ah non, Antoine, dis pas ça.
Je dois avouer, ça n'a rien à voir avec l'interview. J'ai dit hier à Antoine que bah, je t'ai déjà vu mettre un tee dans un bunker. Non, donc,
ah oui, tu m'as vu, toi. Tu as filmé ?
Ah oui, mais je sais que tu triches.
J'ai aucune preuve là.
Pascal Duprat pour Antoine Camboire.
Oui, bonjour Antoine. Ça fait plaisir de te retrouver sur un banc de touche en Ligue 1. Et moi, je pense à tes collègues qui sont tes concurrents maintenant. Ils doivent davantage trembler parce que t'es de retour. Voilà, je te pose une question, moi, de management par rapport à ton groupe. Ça doit être ton dernier entraînement bientôt, ce matin, exactement, j'imagine. Ouais. Je voudrais savoir si tu vas donner ta compo d'équipe ce matin ou si tu vas retarder l'annonce de la composition d'équipe à tes joueurs pour les laisser tous focus juste avant le match.
Ben, moi, je fais toujours ça, donc je vais pas changer mes habitudes. Et je vais donner la compo d'équipe 2 heures avant le match. Voilà, deux heures avant, pour maintenir tout le monde sous pression. Mais aussi parce que donc là aujourd'hui personne peut dire qui va jouer demain. Donc on a fait des oppositions, on a fait des petits jeux et tout toute la semaine. Ça fait plus de 10 jours maintenant que je suis là.
T'as brouillé les pistes. T'as jamais mis ton
brouillé les pistes un maximum. Voilà, parce que l'idée c'est d'avoir tout le monde concerné et surtout parce que Pascal, nous on a un groupe restreint. Aujourd'hui je me retrouve avec 19 joueurs professionnels parce que Simon est blessé. Voilà, 19 joueurs pro et 3 gardiens. Donc voilà, donc ce qui fait que ce que je leur dis, vous avez une chance fantastique et vous rigolez les mecs, il n'y a pas de concurrence ici. Ici, il y a zéro concurrence, donc les postes sont simplement doublés, donc il y a de la place pour tout le monde, quoi. Si tout le monde...
Ce qui veut dire que sur les 8 matchs, tu entends utiliser tout le monde, en fait, sur les 8 matchs qui vont rester à disputer.
Oui, parce qu'en plus, il y a une forte concurrence parce que c'est très dense, quoi. Les joueurs sont très proches les uns des autres, donc c'est très intéressant.
Antoine, dans le groupe que vous avez, vous aviez déjà des joueurs à l'époque de votre premier passage au FC Nantes. Et est-ce que vous pouvez les sujets de motivation, enfin les clés de motivation, vous trouvez les mêmes, vous allez trouver les mêmes parce parce que le discours a déjà été entendu par certains. Au début, ça a marché, à la fin, un petit peu moins bien. Est-ce que vous allez utiliser d'autres trucs pour espérer justement sauver ce club et le relancer?
Mais j'ai compris que ça finit par lasser à un moment donné, c'est ça? Oui, non, mais forcément que les mots sont différents, et puis les attitudes sont différentes, les intonations sont différentes aussi, donc et puis le travail aussi est différent. Mais moi, j'arrive dans un groupe, ce que je pense surtout, c'est que il y a un groupe de qualité. Et surtout, j'ai confiance, non seulement en mon travail, avec mon staff, mais surtout, j'ai confiance en cette équipe. Je suis persuadé, et je reviens parce que je suis persuadé, qu'on est capable de faire le coup, de se maintenir. Alors, je sais pas quand, ça peut être le 18 mai, mais ça peut être aussi le 2 juin avec les barrages. Mais pour moi, je suis persuadé qu'on peut arriver. Mais c'est surtout un problème de confiance aujourd'hui. Il y a du talent, il y a dans cette équipe, il y a de très bons joueurs, mais aujourd'hui, donc, il n'y a pas de solidarité. Quand il y a des difficultés, ben les gars baissent les bras, ils abandonnent. Et puis surtout, ils ne travaillent pas ensemble. Quoi. C'est simplement ce qui manque. Et puis après, Pascal, il le sait aussi bien que moi. Aujourd'hui, donc, il y a des problèmes d'efficacité. Quoi. Et ce soit donc, ouais, défensivement ou quand vous faites une erreur. On a vu contre Strasbourg, 2 mauvaises passes, but. Alors que normalement, le gardien il peut arrêter. Des fois, l'attaquant peut frapper à côté. Et puis surtout, devant, vous pouvez avoir 3, 4, 5 occasions. Vous n'arrivez pas à marquer. Vous êtes en difficulté.
Antoine Camboire est avec nous en direct sur RMC dans les grandes gueules du sport. Cyril Linette pour Antoine Camboire.
Oui, je voudrais m'adresser à Antoine et aussi à Pascal, parce que je trouve qu'on a 2 profils, et je ne veux pas les réduire à ça, mais on a 2 profils d'entraîneurs sauveteurs. Et j'aimerais savoir, l'un derrière l'autre, vous nous donniez peut-être 3 clés, mais juste avec 1 ou 2 mots, les 3 clés en fait pour l'un et pour l'autre du management de crise. Quand vous prenez une situation comme celle-là, j'aimerais bien entendre Pascal pour voir si c'est les mêmes ou s'il y a des éléments différents.
On va commencer avec Antoine et comme ça, Pascal pourra copier. Ouais.
Alors moi, les 3 mots.
Antoine.
Alors moi, c'est les 3 mots, c'est la confiance, redonner confiance.
Ouais.
Et bien sûr, après, donc, derrière les points sur lesquels j'insiste beaucoup, c'est la solidarité, énormément de solidarité. Et puis surtout, ne jamais abandonner. Jamais abandonner. Dans cet état d'esprit-là, vous arrivez à arracher donc bien sûr des résultats et à aller chercher les objectifs que vous avez donc.
Pascal.
Moi, le premier mot, c'est l'optimisme que tu dois dégager en tant qu'entraîneur. Donc, je pense que l'optimisme induit la confiance des joueurs. Ensuite, c'est de ne jamais les lâcher, mais toujours en étant positif. Ils ne sont pas en situation d'échec devant le but. Plutôt dire, tu as tenté, c'est bien, continue. Voilà. Et puis, le maître mot, alors ça fait aujourd'hui, dans le football moderne, c'est pas fun de dire ça, mais mieux tu défends, mieux tu attaques au football. Donc, il faut qu'ils défendent tous, parce que souvent, c'est ça le problème. Antoine le soulignait. En fait, une seule petite erreur et tu prends un but quand tu es en situation délicate. Donc, plus il y a de monde qui défend le plus vite possible, mieux tu vas attaquer ensuite.
Oh, le ticket Pascal Duprat, Antoine Camboire, ouais. Moi j'ai envie de voir ça un jour.
Duo, duo.
J'ai envie de voir ça un jour. Ce sera impossible, mais j'ai envie de voir ça.
Antoine, la clé est chez toi. Chez toi, non.
Après, les 2 codes dans la même basse-cour, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Pascal.
Denis Charvet pour Antoine Camboire.
Antoine, depuis que tu es parti, est-ce que tu as continué à regarder cette équipe de Nantes? Ou t'as pris du recul?
Regardez, mais avec beaucoup, beaucoup de hauteur. J'ai jamais, parce que moi, c'est pas à toi que je vais apprendre, je suis un zappeur fou, moi. Donc, je regardais quelques matchs, je regardais tous les matchs, mais le problème, souvent, donc.
Oui, mais t'arrives pas dans l'inconnu, je veux dire. Ligue,
donc
tu n'arrives pas dans l'inconnu aujourd'hui, par rapport à ce
que tu m'entends. Non, mais en plus, l'avantage, c'est que sur les 25 joueurs, j'en ai 17 que j'ai
managé.
Voilà.
Ouais, c'est plus facile. Ouais.
Antoine, et puis, je pense que c'est un record pour Pascal. Pascal, c'est un record. C'est-à-dire que je reviens, je crois que c'est 10 mois après mon éviction. Hein.
Ah ouais, ouais. Bravo, là t'es un champion.
Je pourrais juste
ajouter quelque chose. C'est que ce que j'aime chez Antoine, c'est qu'il est franc.
C'est vrai que c'est une saison à 8 matchs. Mais je fais quand même la saison 2023.
Vas-y Pascal, sur ce que tu voulais dire.
Moi, ce que j'aime chez Antoine, c'est cette franchise qui quelquefois nous est reprochée. Parce qu'il dit, bon écoutez, moi je prends de la hauteur, je regarde les matchs. Mais vous avez des coachs qui sont à l'arrêt, qui vous disent qu'ils voient tous les matchs. C'est-à-dire les 10 matchs de...
Pascal, t'en vois combien toi par week-end?
Tu sais quoi, quand je vais commencer à pressentir qu'un club peut me recruter, alors je vais me payer tous les matchs. Mais je fais comme Antoine, je zappe, je regarde du foot, je regarde du rugby.
Toi, regarde
l'équipe
de
France
féminine maintenant.
J'écoute tes conneries, Christophe.
Ok, Christophe,
c'est
Antoine.
Valdemar est venu vous rechercher. Est-ce qu'un jour Nasser viendra vous rechercher en tant qu'entraîneur du PSG?
Mais moi, j'ai appris, alors bien sûr, que, toujours avec mesuré, quoi. J'ai appris que dans le foot, tout est possible. Et là, je l'ai appris à mes dépens, quoi. Des fois, donc, c'est à mon avantage. Mais c'est vrai que là, il faut jamais. Alors, par contre, j'ai un truc, c'est que je pars jamais fâché avec les gens. C'est que du foot. Hein.
Alors, c'est un tout petit milieu. Il faut jamais se fâcher dans des petits milieux. Hein.
Pardon.
Il faut jamais se fâcher dans les petits milieux parce qu'on est appelé à retrouver
après,
les gens.
Oui, mais parce que alors c'est pas. Des fois, on se fâche parce que on est en droit de se fâcher parce qu'il y a des bonnes raisons. Mais moi, j'ai toujours pris de la hauteur et puis surtout, je me suis toujours dit, c'est que du foot. Et puis d'ailleurs, je suis souvent engagé par les présidents eux-mêmes. Donc, ce qui fait qu'il y a un pacte en disant, vous venez me chercher, vous êtes content. Il faut que quand on parte, là, on soit content parce que voilà, le milieu du foot est tellement petit qu'on sera amené à se rencontrer de toute façon. Donc, j'ai jamais été. Ça fait 25 ans que j'entraîne. Je n'ai jamais été au prud'homme avec un club. Quoi. On s'arrange, ils me payent. Voilà, il me paye mes mois restants et puis après derrière on part en bon terme parce que je mesure la chance que j'ai. Je suis toujours reconnaissant. En gros c'est ça. Je suis reconnaissant parce que les gens me donnent du travail. Voilà, et c'est ça le plus important.
Antoine, la question patate chaude est pour le journaliste. Il y a pile un an, tu étais donc l'entraîneur de Nantes. On l'a dit et le Ramadan avait fait beaucoup parler et ta sortie justement, tu avais voulu mettre les choses au clair, avait aussi beaucoup fait parler. Tu reviens en plein Ramadan. Comment tu gères là cette situation avec tes joueurs?
Oui, question délicate, mais moi je vais toujours avec mon franc-parler et puis ma façon de faire, c'est-à-dire que aujourd'hui donc on a des joueurs avec nous, des gens responsables et chacun assume donc les choix qu'ils font. Dans la semaine, donc tous les joueurs donc qui font le Ramadan et puis même mi-carême, parce que j'ai appris aussi qu'il y a des gens qui font des mi-carême et chez nous c'est le cas. Donc dans la semaine on gère, il y a aucun souci. On fait des petits déjeuners, ils ne viennent pas. On fait des déjeuners, ils ne viennent pas. Quand on double les séances, je vous dis tout. Hein. Quand on fait des doubles séances, ils ne font que la séance du matin. L'après-midi, ils sont en soins, ils sont en repos, ils sont en machas, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais on ne double pas parce que le Ramadan, c'est un mois et je trouve que c'est pénalisant pour eux sur la durée. Et par contre, les jours de match, je leur dis, mais c'est de façon donc voilà, avec eux, quoi. On discute. Et surtout avec les cadres, que voilà, moi je veux que le jour des matchs, tout le monde on est ensemble. On prépare un match, on est ensemble, donc on est ensemble sur le terrain. Mais pour être ensemble sur le terrain, ça passe par être ensemble. Donc pour manger le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation. Et jusqu'à présent, tout le monde est d'accord, voilà. Mais c'est entre gens intelligents et gens responsables. Et après, ceux qui ne veulent pas donc suivre cette règle-là, ben, y a pas de souci, y a pas de sanction, hein, zéro sanction. Mais par contre, ils restent à la maison.
Et ils ne joueront pas le jour du match. Oui. Ce cas de figure se produit demain ou tu ne sais pas encore?
Non, normalement, ça fait 25 ans que j'entraîne. C'est arrivé une fois, c'était l'année dernière ici. Voilà. Et j'étais, comme ça, je vais tout vous dire. Le joueur qui n'a pas voulu, parce que lui, bon, voilà, ses convictions religieuses étaient importantes et je le conçois. On a fait la réunion ici avec sa maman, agent, le frangin et tout. Tous, ils lui ont dit aux joueurs, nous on veut que tu joues. Et lui, il a dit non, je veux pas. Ok. Et donc, il s'est soustrait tout seul. Il y a aucun souci. On a respecté donc son choix. Sa maman, tout ça et tout, ils ont respecté son choix. Et donc, nous, on a respecté son choix. Mais nous, on a fait notre match. Voilà. Parce que pour moi, je pense toujours, avec l'appui, bien sûr, des médecins et tout, que quand vous jouez donc à 17h, quand vous jouez à 20h, vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous êtes plus costaud et puis surtout là, vous êtes fort pour faire un match, quoi.
Et c'est ce qu'on aime avec Antoine. On pose une question, il est franc et il répond et il met les choses au clair. On va libérer Antoine dans quelques instants parce qu'il y a un entraînement et c'est très important avant le match à Nice demain. Je sais que Denis, tu avais quand même une petite question à lui poser.
Je suis très inquiet pour toi, Antoine.
Encore
parce
lui.
Oui, parce que depuis que tu as été nommé, j'ai très peur pour ton classement au golf. j'ai peur que tu descendes dans ton classement.
Ben, entre nous, quitte à choisir, je préfère être là pour une fois que tu me battes au golf, mais surtout qu'on se maintienne en Ligue 1.
Je rappelle Antoine qu'il reste 8 matchs, il y en aura 5 à l'extérieur, mais il y aura aussi des problèmes à la Beaujoire parce qu'il y a, il y a un match à huis clos et d'autres matchs où il y a une partie de la tribune. En tout cas, c'est un huis clos partiel, comme on dit. Donc la mission s'annonce très dur, mais on te souhaite tout le bonheur du monde et évidemment de réussir ta mission, Antoine.
Ok, merci beaucoup. Mais de toute façon, les challenges difficiles, il paraît que c'est comme ça qu'on les apprécie mieux quand on a gagné, surtout à la fin. N'est-ce pas, Pascal ?
Exactement.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir Antoine, discuter avec toi et de voir cet échange Antoine. Aussi, Pascal Duprat, Antoine Camboiré, deux entraîneurs de notre Ligue 1. Merci beaucoup Antoine et bon match demain face à Nice, un match évidemment extrêmement
chez
important.
Chez les Niçois.
Ouais. Tu vas laisser gagner les Nantais.
Ouais, pour Antoine.
Bonne fête de Pâques.
Bonne fête.
Merci Antoine.
Ciao. Match très important, Nice-Nantes, et puis il y aura Nantes-Lyon ensuite. Bref, un programme dantesque pour Antoine Camboiré et les Nantais. Un moment très agréable avec Antoine Camboiré que vous pouvez d'ores et déjà réécouter en podcast si vous avez pris en cours d'interview cette émission. 10h27, on revient dans quelques instants. La punchline des GG, Julien Alaphilippe ne veut pas de Tour de France. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Salut les potos.
Les grandes gueules du sport.
Bon week-end. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, les amis.
Jean-Christophe Drouet.
C'était Antoine Camboiré. C'était il y a quelques instants en direct dans les grandes gueules du sport avant le match du FC Nantes. Demain à Nice, ce sera 15h à suivre sur RMC. 10h32, toujours avec Pascal Duprat, Cyril Linette, Denis Charvet, Christophe Cessieux dans 10 minutes. Restez bien avec nous. Le zapping des GG. On s'en fout, on s'en fout pas. J'ai beaucoup d'informations à vous donner et notamment celle-ci qui m'a interpellé hier, c'est TJ Parker qui va donc attaquer le club de l'ASVEL, le club de son frère Tony Parker, vous me direz si ça vous intéresse ou non et plein d'autres informations à développer avec vous. À 11h45, dans 1h15 maintenant, les GG contre-attaquent. Mais GG, cette saison, vous le savez, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote. C'est à vous d'être convaincant. Quelques secondes pour nous convaincre. Denis Charvet, tu proposes quoi?
Mais je propose PSG-OM parce que ce classico, il ne faut pas faire l'impasse sur ce classico. J'entends Luis Enrique qui veut mettre Mbappé sur le banc, ça serait un scandale.
Il ne l'a pas encore dit.
Il ne l'a pas dit, mais il l'a évoqué. Et puis un classico, ça se respecte. Et il faut que le PSG joue à fond ce classico, même avec 12 points d'avance.
Ok, on ne manque pas de respect à un classico.
On ne manque pas de respect.
Voilà un sujet ambitieux. Un sujet très très ambitieux. Qui a dû te demander beaucoup de travail.
Mais quelle est la question surtout?
Pas te faire voir.
Quelle est la question? C'est souvent un peu ça.
Est-ce que vous pensez qu'il faut respecter ce classico?
D'accord. Ok, merci beaucoup. Pascal Duprat.
Alors moi, écoutez, je voudrais vous parler de cette merveilleuse nouvelle du retour de Ntamack sur les terrains du top 14, puisque je crois qu'il va être contre Pau remplaçant aujourd'hui. Donc Ntamack est de retour et ça m'inspire une question. Est-ce que la mauvaise passe de l'équipe de France, je parle de la défaite bien sûr en Coupe du Monde contre les Sud-Africains, et puis ensuite ce départ un peu calamiteux pendant le tournoi des Six Nations, est-ce que ça serait pas la principale cause de ces difficultés de l'équipe de France et du 15 de France?
Eh oui, on a beaucoup parlé d'Antoine Dupont, mais Romain Ntamack, c'est le débat proposé par Pascal Duprat. Vous pouvez aller voter. Cyril Linette.
Alors, moi, ma contre-attaque, c'est le marketing est-il l'ennemi du foot et des supporters du foot? Le nouveau logo de la Ligue 1 a été présenté cette semaine. Ça a suscité des débats contrastés, ce qui est normal. Il est très anguleux, il est très pointu. Il est un peu à l'opposé quand même du ballon rond et des côtes du ballon rond. J'ai regardé les uns après les autres. Les clubs ont changé de logo. Et c'est toujours un peu la même chose. Des trucs très stylisés ou stylisés, comme disaient les inconnus.
Court,
mais c'est tout court. Et ils travaillent d'ailleurs globalement avec la même agence. Et quand on voit des logos qui remplacent des blasons ou des écussons qui avant racontaient l'histoire du club et de la ville, quand on voit les changements de maillots réguliers, de couleurs et autres, la question c'est le marketing qui est nécessaire. Hein. Est-il l'ennemi du foot et notamment ses supporters?
Vous pouvez voter pour Cyril Linette si ça vous intéresse. Pas, Christophe Cessieux.
Savez-vous combien de coureurs et de coureuses cyclistes sont morts depuis 10 ans? Est-ce que vous avez une idée?
Aucune idée.
Il y a 18 coureurs. Ils sont morts en 10 ans. Le sport cycliste est aujourd'hui le sport le plus dangereux de la planète. Et on ne fait rien. À la différence du sport automobile où on a accru les mesures de sécurité, à la différence du ski, le cyclisme, les mecs sont livrés à eux-mêmes et on ne trouve aucune solution. Et on les laisse partir vers des accidents de plus en plus graves. Ce qui s'est passé cette semaine avec l'accident de Van Aert est dramatique. Je pense qu'il faut prendre des mesures et j'ai peut-être quelques solutions à vous apporter.
Quelques solutions. C'est là où on voit que c'est un grand journaliste. Une attaque directe. Pour percuter.
Mais Denis a la solution pour qu'on se régale pendant le classico aussi.
Ok les copains, allez voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Ce sera à 11h45. Sa parole est rare, comme ses victoires depuis deux saisons. Julien Alaphilippe s'est confié hier à RMC Sport et à notre spécialiste cyclisme, Arnaud Souk, juste avant le Tour des Flandres qui aura lieu demain. Le double champion du monde français n'a éludé aucun sujet, et notamment sur sa présence ou non sur le Tour de France, lui qui avait fait le choix en début de saison du Giro. Pourtant, il y a quelques jours, son coéquipier Remco Evenepoel avait réclamé sa présence. Julien Alaphilippe ferme la porte à double tour, il n'a pas envie. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Non, c'est prévu déjà depuis longtemps que je sois aligné sur le Giro. Je vais terminer ma campagne de classique dimanche avec quelques jours de repos et j'ai déjà réservé un hôtel en altitude en Andorre pour une vingtaine de jours, donc je suis content d'aller découvrir le Giro. Et je pense qu'après, je pourrais penser à la suite de la saison, mais...
T'y penses pas ou ça te dit pas d'y aller, en fait
c'est... Ça me dit pas.
Ça ne me dit pas d'y aller, Julien Alaphilippe, quand un coureur français est moins bien. On l'a vu également avec Thibaut Pinot. Il se réfugie vers le Giro et il arrête le Tour de France. Ma question, le Tour de France broie-t-il nos Français? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Cyril Linette?
Oui.
Pascal Duprat?
Non.
Denis Charvet?
Non.
On commence avec Christophe, pourquoi oui?
Pourquoi non?
Pourquoi non?
Ben parce que je pense pas que le Tour de France broie les coureurs. C'est évidemment un motif de pression et de stress supplémentaire que pour n'importe quelle autre course, mais parce que le Tour de France n'est pas une course comme les autres.
Il n'a pas envie d'y aller.
Mais d'accord, il en a fait 15 des Tours de France. Est-ce que c'est comme si tu posais la question, est-ce que l'Euro, est-ce que la Coupe du Monde broie les coureurs français? C'est la course évidemment sur laquelle tu vas avec le plus de pression. C'est la course où tu dois répondre à 100 journalistes par jour. C'est la course où tu as des milliers de fans tous les jours et tu perds ton temps à faire des selfies, à faire des autographes. Mais c'est pas parce que c'est le Tour de France et ça broie pas plus nos coureurs français que les autres, même si évidemment en France ils sont très attendus et qu'on pose la question toutes les semaines aux coureurs. À quand le successeur de Bernard Hinault? Ça fera 40 ans l'année prochaine,
quand
tu vois.
Quand t'es coureur, tu penses qu'au Tour de France. C'est là où je te rejoins
quand
pas.
Il y a une petite phrase que les coureurs se disent entre eux. Quand ils voient un jeune coureur, ils disent « Tant que t'as pas fait le Tour de France, t'es pas un vrai coureur ». Donc voilà, oui. C'est le nec plus ultra. Oui. C'est comme apparaître dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. C'est comme être dans la liste d'un sélectionneur pour une grande compétition, une Coupe du Monde de foot ou de rugby. C'est tous aspirent à un jour vouloir faire le Tour de France. Et je me souviens de l'état d'euphorie dans lequel se trouvait Julien Alaphilippe lorsqu'en 2019, il a porté le maillot jaune à plusieurs reprises. Il avait la banane jusque-là. Il faisait le spectacle devant son bus avec les spectateurs, avec les fans. Il était le plus heureux du monde. Quand tu es au top, le Tour de France est magique.
Ah ben voilà.
Quand tu es en difficulté, comme l'est aujourd'hui Julien, t'as pas envie. Oui, tu préfères aller dans un truc où t'auras moins la pression. On dira pas tous les jours. Ah alors quand est-ce que vous allez retrouver vos jambes? Mais c'est pas le tour qui broie, c'est ta forme un peu moins bonne qui te broie.
Donc il faut un peu.
Vous êtes d'accord ou vous débattez? Parce que je suis le seul.
Je suis le seul sur
la position du oui, donc c'est logique que je puisse quand même m'exprimer. D'abord, je pense qu'Alaphilippe répond à son directeur sportif qui avait dit je verrai après le Giro si je vais le sélectionner. Donc c'est quand même une manière de lui couper l'herbe sous le pied. Et on sait qu'ils ont des relations plus que compliquées, y compris avec l'épouse de Julien Alaphilippe. Donc il y a eu quand même pas mal de polémiques. Moi, je pense que le Tour de France broie les coureurs français, mais je ne parle pas du Tour de France en tant que course, je ne parle pas du fait de participer au Tour de France, je parle de la carrière en fait des coureurs français. Je pense qu'ils sont conditionnés. C'est un peu comme le tennis et Roland Garros, comme le Tour de France, il est chez nous. Moi, je pense que les coureurs français sont conditionnés autour du Tour de France depuis le début. On se rappelle qu'on n'a pas gagné depuis 85 Bernard Hinault, mais enfin, c'est pas mieux sur le Giro, c'est 89, et pas mieux sur la Vuelta, c'est 95. Donc, on n'a pas vraiment de coureurs de grand tour. Mais tous les 5 ans, on nous annonce le futur vainqueur du Tour. Rappelez-vous Chavanel qui était présenté comme le vainqueur du Tour futur. Rappelons-nous Romain Bardet qui plusieurs fois avait dit moi, cette fois-ci, je vais axer complètement ma saison sur le Tour de France. Or, on n'a pas vraiment de coureurs aujourd'hui. On n'a pas de coureurs aujourd'hui capables de concilier grimpeur et rouleur, donc d'être un vrai candidat au titre du Tour de France. Donc, je pense que ça broie. Non, parce que pour terminer, je pense que ça broie un peu leur carrière. Les Belges, par exemple, n'ont pas gagné le Tour de France depuis 77, mais le Tour de Belgique étant pas important, les Belges ne sont pas obsédés par le Tour de France.
Le Tour des Flandres. Non.
Ils gagnent des classiques. Ils ont un registre de vainqueurs.
Mais moi, je pense que ça broie.
Tu amènes de l'eau.
Pascal.
En fait, ton exposé, il est remarquable, Cyril, mais tu amènes de l'eau à notre moulin. Parce qu'en fait, c'est pas le Tour de France qui broie les coureurs français. C'est les coureurs étrangers qui broient les coureurs français. Oui, mais... Parce que le Danemark, par exemple, c'est le dernier vainqueur, double vainqueur du Tour de France. Le Danemark, c'est 6 millions d'habitants et pourtant, ils ont des cyclistes qui gagnent des tours, qui gagnent des grandes classiques. La Slovénie, j'en parle pas, c'est 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, ils ont un phénomène et ils en ont deux d'ailleurs.
Philippe, il a gagné quand même, la... champion du monde. Tu peux pas dire qu'il a pas gagné.
Oui, mais champion du monde, mais moi je te parle des tours et je te parle des classiques. Les Français sont en dessous de ces nations où pourtant il n'y a pas beaucoup de densité de population. Je parle pas de la Hollande avec Van der Poel, et je parle pas de la Belgique qui regorge de très bons coureurs. Donc c'est pas le Tour de France en fait. Le Tour de France, les Français, ils ont tous. Alors peut-être avec une petite mesure pour ce qui est d'Alaphilippe, mais quoi que c'est pas lui qui a décidé de pas le faire, hein, parce que je pense pas que son patron il lui a dit tu veux faire le Tour de France, non ça doit pas être comme ça que ça se passe à mon avis vu son salaire. Mais non, ce que je veux dire c'est que malheureusement les coureurs français sont en deçà des autres coureurs de pointe. Voilà.
Mais oui, à Pascal, c'est un problème de profil. Je pense qu'il y a des Hino, des Anquetil, il n'y en a pas toutes les générations.
Mais quand tu as 60 millions d'habitants, tu devrais quand même en sortir davantage.
Alaphilippe, on sait très bien, Christophe est le premier pour le dire, qu'il n'a pas les moyens de gagner un Tour de France. Les moyens, quand on dit les moyens, c'est qu'il n'a pas la montagne, il n'est pas fort en tous les domaines.
Mais c'est même pas ce qu'on lui demande.
Oui, mais c'est pas le
Tour qui le broie.
Oui, mais c'est pas le Tour qui le broie. C'est ses capacités à ne pas se surpasser ou ne pas avoir les capacités pour gagner.
Comment tu expliques qu'un coureur de la trempe de Julien Alaphilippe n'ait pas envie d'aller sur le Tour de France?
Ah non, mais ça c'est un débat.
Il l'a déjà fait. Il faut reconnaître qu'il en a fait beaucoup.
Cette année,
il a entendu. Alors l'interview qu'a réalisé de lui Arnaud est très longue et il dit voilà, moi je suis aujourd'hui, je suis pas à ce que j'étais il y a quelques années.
Non, mais moi je pense que c'est le pionnier, il a prévenu Cyril, ça n'a rien à voir avec ça.
Total, t'as pas envie d'y aller. Et puis en plus, il y a une autre différence, c'est qu'avant il y allait en tant que leader de la formation Soudal. Aujourd'hui, il irait pourquoi sur le Tour de France? Pour être le porteur d'eau d'Evenepoel. Ouais. Quand t'as été double champion du monde, est-ce que t'as envie d'aller porter? Moi, j'ai pas envie de te porter tes bidons. Ouais,
tu crois
quand on débute l'émission, ça me gonfle.
C'est pourtant ce que tu fais.
Mais pas du tout. Justement, je te les casse sur la tête, les bouteilles. Non, mon
il répond quand même à le feu vert. Il répond quand même à son.
Oui,
justement,
en partie, oui.
Je voudrais, pour terminer ce débat, vous faire écouter une autre phrase de cette interview exclusive à retrouver vraiment sur rmcsport.fr. Vous allez vous régaler parce que Julien Alaphilippe répond à toutes les questions et notamment donc sur cette passe d'armes, ces polémiques avec Patrick Lefebvre. Est-ce qu'il a été touché, Julien Alaphilippe? On l'écoute.
J'ai réussi vraiment à m'en détacher au maximum comme j'ai souvent l'habitude de faire. Après, ça m'a plus fait chier pour Marion qui, elle, n'a rien demandé et qui n'aime pas du tout être dans les histoires. Et il y a des choses qui peuvent et qui sont censées être personnelles. Et c'est un peu chiant quand c'est tout le temps dans la presse alors que ça n'a pas lieu d'être. Mais pour moi, non, je m'en suis détaché. Je m'en fous, en fait. Vraiment, sincèrement, je suis fatigué de ça, en fait. Et du coup, je m'en fous tellement que la seule chose que je peux faire, c'est faire bien mon travail et je le fais très bien, du mieux que je peux en tout cas, depuis de nombreuses années. Et à partir du moment où je me sens comme ça, le reste, je m'en fous.
Le reste, je m'en fous. C'est fort quand même, hein. On n'a pas l'habitude de l'entendre parler comme ça.
C'est rare qu'il parle comme ça, qu'il s'exprime avec son cœur. On le sent très touché de ce qui s'est passé. Mmh. On rappelle que sa compagne s'est vraiment égratignée par le feu vert. Lui, il a le cuir tanné, Julien. Il sait très bien. Et puis, il connaît l'animal, tonton Pat, le vieux tonton grincheux. Il le connaît depuis des années. Il sait comment elle réagit. Donc, voilà. Mais ça l'a bien gonflé pour sa femme. Et je pense qu'il n'a plus beaucoup envie de faire d'efforts
On peut quand même rappeler qu'il parlait d'une hygiène de vie déplorable, de trop de fêtes et trop d'alcool. Ouais. C'est quand même de ça dont il a parlé pour la famille.
Et de sa femme qui le lâche pas et qui s'occupe de ses contrats et qui lui fait signer des contrats pharaoniques.
Tonton Grincheux, nous, on l'a aussi dans la mission.
Hein. Oui. Ouais. Et il s'appelle Christophe Cessieux qui va aller nous chercher des cafés dans quelques instants. 10h45, on se retrouve dans une poignée de secondes. Le zapping des GG avec beaucoup d'informations à vous donner. Et notamment TJ Parker qui va attaquer le club de son frère Tony Parker. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, le retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité ce matin. Denis Charvet, Cyril Linette, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. À partir de 11h, restez bien avec nous. Un débat sur les capitaines de nos équipes de France. Dupont, Mbappé dans l'actualité cette semaine. Est-ce une erreur de donner le brassard à nos superstars ? Vous n'êtes pas d'accord les GG, ça tombe bien, c'est l'essence même de cette émission. Avant le zapping des GG, un très beau cadeau à vous faire gagner. Dans les grandes gueules du sport ce week-end, nous vous offrons le tout nouveau maillot de l'équipe de France de foot qui vient tout juste de sortir pour l'Euro 2024. RMC sera la radio officielle de cet Euro et grâce à Intersport, vous allez pouvoir remporter ce très très beau maillot. Inscrivez-vous tout de suite en envoyant bleu. BLEUS au 7-32-16. Bleu au 7-32-16. Le grand gagnant sera appelé à 11h45. Il est beau, non, ce maillot, Denis ? Le maillot de l'équipe de France de foot, le nouveau.
Je trouve que c'est le plus beau qu'il y ait jamais eu, moi.
Ah oui ?
Franchement, il est sublime. Le bleu est magnifique.
Le bleu, là, France-Allemagne, bien sûr.
Le bleu, blanc, rouge autour du col, sublime.
Eh bien, on fait le gagner ce matin. Et n'hésitez pas à participer. Ça peut vous aussi vous arriver. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Au pas de course les copains s'il vous plaît. Intervention brève car j'ai pas mal d'informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Kevin Mayer, toujours aussi confiant pour aller au JO. Quoique, il a émis un petit doute. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
On a fait le débat la semaine dernière, mais je m'en fous pas non.
Cyril Linette.
Je m'en fous dans le sens où j'ai pas grand chose à dire là-dessus.
Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
Je m'en fous pas.
Alors sa parole était attendue après son abandon à San Diego la semaine passée, tu l'as dit Christophe, dans sa tentative de réaliser les minima pour les Jeux Olympiques. Il a repris le chemin de l'entraînement et Kevin Mayer se veut plutôt optimiste à 4 mois des Jeux Olympiques. Il n'a toujours pas son précieux sésame, comme on dit, pour y aller, mais il y croit, quoique, petite nuance, on l'écoute.
En fait, je suis en accord avec moi-même. Tous les jours de ma vie, pendant que j'ai pratiqué mon sport, j'ai tout fait pour être le meilleur et tout fait pour que tout se passe bien. À partir de là, j'ai pas de regrets à avoir sur le passé. Par contre, j'ai beaucoup de pression sur le futur pour assumer. Et ça a souvent bien marché. Donc si je suis sur mon canapé en août, je le regretterai pas, je le sais. J'aurais tout donné pour y arriver. Vu ce que je connais de moi-même, les probabilités pour que je sois sur mon canapé en mois d'août sont quand même très, très restreintes. Et heureusement.
C'était hier au micro de Morgan Mori. Il ouvre la porte.
Il se connaît bien.
Il se connaît bien, mais est-ce que Christophe, il ouvre la porte à nous préparer
Il n'est toujours pas qualifié. Il n'est toujours pas qualifié, mais non, parce que sa dernière phrase dit bah oui, je me connais bien. Une très, très faible probabilité pour que je me retrouve sur mon canapé.
Je le trouve en confiance plutôt. Je le trouve.
Alors, il sait où il va. Est-ce qu'il est vraiment au fond de lui en totale confiance ou est-ce qu'il fait mine et il essaye de garder cet optimisme qui va le pousser vers la qualif? Ça, c'est difficile.
Non, mais l'inquiétude, c'est la blessure, parce que là, il a arrêté à cause d'une blessure, même si elle était légère.
Mais l'inquiétude, c'est même pas ça.
Souvent, on dit qu'un décathlonien, et lui le disait régulièrement, il ne peut pas faire plus de 2 décathlons dans la même année.
Il n'a plus qu'un ou deux, je crois, c'est ça.
Il a plusieurs possibilités.
Il ne peut pas enchaîner 3 décathlons.
C'est-à-dire qu'il se qualifie au mois de juin, la compétition olympique, elle est au mois d'août, ça va faire très court entre deux. Donc, il ne faudra pas qu'il se blesse du tout.
Il aura quand même le temps de récupérer, Christophe.
Ouais, mais t'as vu comme c'est compliqué, décathlon, au bout de 4 courses, parce qu'il avait un tout petit problème à un pied, ça a produit des tensions sur un autre muscle et ça l'a fait arrêter. C'est des mèches mécaniques de précision.
Oui, Christophe, après, comme tous les sportifs professionnels.
Peut-être un peu plus que tous les autres. Parce que c'est 10 épreuves différentes qui sollicitent tous les muscles du corps. Alors qu'un footeux, un cycliste,
tu penses qu'il n'y a pas un seul muscle du corps? Tu penses qu'il y a des muscles du corps chez les footballeurs? Mais ça part le cerveau. Vas-y, allez, balance-la. Balance-la ta connerie. Mise à part le cerveau. Non, mais arrêtons, s'il vous plaît. Mais faites-lui faire un match de football 94 ou 95 minutes avec des professionnels à ce garçon pour qu'il comprenne ce que c'est que le sport de haut niveau.
Il sait pas.
On va passer à autre chose. Merci pour ce moment, messieurs. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est TJ Parker qui va attaquer le club de son frère Tony Parker. On s'en fout pas. Denis Charvet.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Cyril Linette.
On s'en fout, c'est privé.
Christophe Cessieux.
Non, je m'en fous pas. Mais je comprends.
Le divorce entre TJ Parker et Lasvel, présidé par son frère Tony, devrait aller devant la justice d'après le Progrès et Basket Europe. L'ancien entraîneur du club de Villeurbanne, remercié en octobre dernier, on en avait parlé dans cette émission, va demander réparation devant le conseil des prud'hommes. Cette information vous inspire quoi, Pascal?
Ben qu'on peut décidément ne faire confiance à personne, c'est comme ça, même entre membres de la famille, ça arrive de se trahir. Bon,
mais c'est peut-être pas une trahison, hein, parce que
pour l'aspect, non, mais je veux dire, ils auraient pu faire l'économie de cette sortie là et puis trouver un accord amiable, il me semble, parce que
fou qu'entre deux frères on trouve pas un arrangement.
Mais ils vont trouver l'arrangement,
c'est le
pareil.
Président avec son employé,
oui,
hein.
C'est peut-être la procédure, tout simplement, qui lui est imposé, mais bon.
Mi-juin, il y aura une tentative de
réconciliation.
De conciliation.
Moi, je trouve que c'est un peu ingrat de la part de TJ. Faut rappeler quand même que c'est son frère qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a donné les commandes du plus grand club français de basket, alors que son CV lui permettait sans doute pas d'espérer avoir un poste aussi haut, aussi beau.
Oui, mais tu sais pas l'affaire. Il a perdu de l'argent et que.
Oui. Bah, c'est pour ça qu'il
est privé.
Ok, c'est ce qu'avait dit Cyril. Il est très content. Il sait qu'il n'a pas le droit à la parole et il a respecté évidemment son engagement dans son contrat. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Léon Marchand toujours au top au final NCAA. On s'en fout. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas. C'est la future star des jeux.
Cyril Linet.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Non. De Nichard. Ok, ça vous intéresse. Sachez d'ailleurs qu'on aura un magnifique reportage demain dans les grandes gueules du sport, donc on en reparlera en longueur. Mais sachez que il a déjà été vainqueur du 500 yards jeudi, record NCAA à la clé. Eh bien, Léon Marchand s'est aussi largement imposé sur sa distance de prédilection. C'est le 400 yards 4 nages lors des finales universitaires à Indianapolis. Et notre reporter Julien Richard est sur place. Il l'a rencontré après la course. Pense-t-il déjà à l'engouement autour de lui pour les Jeux Olympiques? Réponse.
Je pense pas du tout à ça. Ce que je pense en ce moment, c'est à créer un peu des souvenirs avec mes potes, tout simplement. On est 18 là dans l'équipe, et franchement, je sais que dans 10 ans, on sera toujours en contact et on se souviendra de ces moments passés. Et c'est vraiment des souvenirs de ouf depuis 3 ans, franchement, qu'on gagne ou pas. Donc c'est cool.
Et les Américains sont fans de lui, vous l'entendrez dans le reportage demain. Cyril Linet.
Moi, ce que j'adore au-delà de ses performances, c'est sa communication. Je trouve géniale, elle me fait penser aux communications très inspirantes des dirigeants ou des entreprises qui parlent d'elle avant de parler de leurs concurrents. Ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il il peut donner son avis sur certains concurrents, mais il est absolument pas obsédé par la concurrence. Il est concentré sur sa performance. Lorsqu'il gagne une course, il dit « j'aurais pu faire mieux ». Il est exactement dans la sérénité qu'il faut. Lorsqu'on est obsédé par l'adversaire, c'est le meilleur moyen de se planter. Et j'ai vraiment le sentiment que lui, c'est le contraire. Ce qu'il souhaite absolument en permanence, c'est améliorer sa propre performance sans finalement trop s'occuper des autres.
Et je ne sais pas si vous avez vu cette information. On en avait parlé il y a quelques mois lors des conférences de presse. Il respecte un calendrier, un agenda. Il a son téléphone à côté de lui. Il programme sur 30 ou 45 minutes les questions. Et au bout de 45 minutes, son téléphone sonne et dit « Bon voilà, on a terminé avec cette conférence de presse. »
C'est un peu à l'américaine quand même, qu'il a grandi là-bas.
Oui, mais c'est...
Oui, quand même. Parce qu'en
ça France, traduit quand même la maturité du garçon.
Ah, c'est quand même plus intéressant que certains qui aujourd'hui, au bout de 2 minutes, passent en zone mix et te disent « Salut les gars, à la prochaine fois !» Tu penses pour un bras d'honneur. Hein, moi, je préfère ce professionnalisme-là quand même.
Ok, bon, en tout cas, c'était juste pour vous passer cet extrait de Léon Marchand, mais on en reparlera
Christophe
en longueur.
Christophe Cessieux, c'est une catastrophe, Christophe Cessieux.
Ce qui est génial, c'est que c'est devenu une caricature lui-même.
Je vous jure, je suis pas comme ça dans la vraie vie.
C'est catastrophique.
Allez, on reparlera de Léon Marchand demain. Le dossier sur les capitaines de nos équipes de France, Antoine Dupont, Kylian Mbappé, est-ce une erreur de donner le brassard à nos superstars? Les GG ne sont pas d'accord. Il est 10h57. On se retrouve dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.